Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. On assiste de nos jours à une efflorescence de livres proposés dans des librairies chrétiennes qui traitent de la question des bénédictions et des malédictions dans la vie du chrétien. Par exemple, j'en ai apporté deux là. En voilà un. Malédiction non brisée. C'est écrit par une dame, Rebecca Brown, et son mari, Daniel Yoder. Un autre, écrit par un pasteur américain, Larry Hutch. Et le titre, c'est 10 malédictions qui bloquent la bénédiction. Bon. Il y en a bien d'autres, hein. Ce n'est que deux exemplaires. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sortent en ce moment. Et la thèse de ces auteurs, bon, je ne les ai pas tous lus, loin de là, hein, mais c'est un peu plutôt pareil. La thèse de ces auteurs peut être résumée ainsi. Tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas dans la vie d'un chrétien, maladie, dépression, problèmes financiers, haine et jalousie, malédiction héréditaire, addiction de toutes sortes, tout cela peut être combattu en les identifiant comme des malédictions mises sur sa vie, la vie du chrétien, et on peut les briser au nom de Jésus-Christ. Alors je vais vous donner juste un exemple assez caricatural de ce type de raisonnement qu'on trouve dans un des deux livres que je vous ai montré, celui de Larry Hutch. Selon lui, par exemple, le Christ a versé son sang 7 fois lors de sa passion. Je ne sais pas bien comment il a compté les 7 fois, mais bon. Parmi ces 7 fois où son sang a coulé, il y a eu la couronne d'épines qui blessait son front. Les épines sont le symbole de la malédiction du sol par Dieu suite à la désobéissance d'Adam et de sa femme. Et donc, signe de la pauvreté matérielle. Quand il y a des épines, c'est qu'il y a moins de production agricole, etc. Le Christ ayant versé son sang pour cela, il vous suffit d'invoquer la puissance de son nom pour briser cette malédiction, la malédiction des épines. Et ainsi, vous connaîtrez la prospérité matérielle. Voilà une des thèses de ce monsieur Larry Hutch. Alors, je vous propose de regarder l'Écriture au sujet de cette question de malédiction et de bénédiction. Et justement, un texte qui nous parle de malédiction, de tentative de malédiction, qui ont été tournés en bénédiction. Donc, vous ouvrez vos livres dans le livre des vos Bibles, pardon, dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Il s'agit du peuple d'Israël qui a été délivré, on sait comment, par l'Éternel de l'esclavage en Égypte et qui est sur le chemin pour aller en terre promise, en Canaan. Et bien sûr, ils doivent traverser des contrées où il y a des peuplades et des rois qui ne voient pas d'un très bon œil ce peuple qui vient traverser leur territoire. Et là, il s'agit des Madianites, qui ont un gros souci, et surtout des Moabites. Et voilà un petit peu ce qu'ils disent à la deuxième moitié du verset 4, hein, donc Nombre 22, verset 4. Cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Moab, donc une peuplade de cette région-là. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor, sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir. Alors, l'Euphrate, c'est pas du tout le même coin, hein, c'est assez loin, c'est dans l'Irak actuel. Hein. Donc, voyez, ce Balaam habitait relativement loin. Donc, on envoie chercher ce devin, ce voyant, hein, pour une chose bien particulière. Alors, voilà ce qu'on lui demande. verset 5, « Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte, il envahit toute la région, et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Vous voyez donc un exemple de malédiction qui est demandé. « Maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Bon. Donc cette affirmation du roi païen qui est Balak montre clairement quelle est sa théologie. Et tout ce récit tourne autour de la question de savoir si le langage confère bénédiction et malédiction ou s'il les confirme. En d'autres termes, quelle est la vraie source de la puissance de la parole ? Le paganisme, en effet, est enfermé dans l'idée que la puissance divine peut être manipulée par les rituels réglés d'une caste de professionnels. Et Balaam était un de ces professionnels. Il est ainsi, le paganisme, pris au piège d'une conception mécaniste du monde, alors que nous allons le voir, dans la perspective biblique, le réel se trouve soumis à la volonté d'un Dieu tout-puissant, déjouant toute manipulation. Et la thèse des livres dont j'ai parlé au début n'est à mon sens que la version christianisée de cette conception. Alors on continue notre lecture, verset 7. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Et Balaam leur répondit : Restez ici cette nuit et demain je vous donnerai ma réponse, selon ce que l'Éternel me dira. Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. On peut être étonné par ce verset. Apparemment, on voit que Balaam connaît l'Éternel et sait qu'on ne peut rien contre sa volonté. D'où la prudence de sa réponse à la sollicitation des émissaires de Balak. Notons que connaître la puissance et la souveraineté de Dieu ne signifie pas obéissance ni foi. On continue notre lecture. Donc les chefs de Moab logent la nuit en question là chez Balaam. Et Dieu vint trouver Balaam et lui demanda, donc de nuit je pense, hein, « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Balaam lui répondit, « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire, « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays, viens donc le maudire pour moi, peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam, « Ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Le lendemain, Balak alla déclarer au chef envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. » Donc on voit que Balaam apparemment rend les armes et renvoie les émissaires vers leur roi en disant ben, « L'Éternel ne marche pas dans la combine, c'est pas la peine que j'essaye, hein, en gros. » Alors on continue notre lecture. Verset 13. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef, oui pardon, excusez-moi, au verset 14, les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, Balaam a refusé de venir avec nous. Alors Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce, ne refuse pas de me venir en aide. « Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. » Donc on voit que Balak revient à la charge et qu'il y met le paquet. Une délégation composée de princes plus nombreux et plus importants et surtout la perspective d'un salaire mirobolant. Alors on va continuer notre lecture. Balaam répondit au serviteur de Balak, « Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Il dit « mon Dieu, hein. » « Même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit. » vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Pourtant, la parole de l'Éternel avait été claire. Hein? Mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il va me dire autre chose cette nuit. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Et donc le lendemain, Balaam alla seller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Donc on a vu que Balaam a réaffirmé qu'il ne pourra dire que ce que l'Éternel lui permettra de dire, même pour une petite chose. Et là, ce n'est pas une petite, c'est une grande. Hein. Il s'agit de maudire tout un peuple. Mais on voit que la convoitise le met sur la voie du péché. Restez ici cette nuit pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. On ne sait jamais. Pendant cette seconde interrogation de l'Éternel, pourquoi cette seconde interrogation de l'Éternel ? Il savait très bien que Dieu était opposé à ce sujet. Et très curieusement, on l'a lu, hein, Dieu l'autorise à accompagner la délégation de Balak tout en le prévenant qu'il ne pourra dire que ce qu'il lui mettra dans la bouche. On a peut-être là un phénomène d'endurcissement actif de Balaam de la part de Dieu. Phénomène qui peut survenir quand on persiste dans son refus d'obéir. De la même manière, Dieu a endurci le cœur de Pharaon lors de sa confrontation avec Moïse, mais non sans lui avoir donné toutes les preuves de sa puissance auparavant. Alors, on continue la lecture. Donc, on voit Balaam qui part avec son ânesse et les princes de Moab. Verset 22. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de deux serviteurs. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre deux murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Abraham, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi? Et il répondit, ben non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé par trois fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car à mon avis, ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à trois reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin, et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. » Et Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Donc on l'a bien vu que Dieu n'est pas du tout d'accord avec cette démarche, et même qu'il est en colère, et c'est là qu'il envoie son ange pour barrer la route aux voyants. Et je trouve que tout cet épisode de Balaam avec son ânesse est à la fois plein d'humour est très significatif. Le voyant, Balaam se dit être un voyant, hein, le voyant ne voit rien. Il est incapable de voir l'ange de l'Éternel brandissant son épée sur le chemin, et si l'ânesse ne s'était pas finalement arrêtée en se couchant, l'ange l'aurait abattu, et le voyage se serait terminé là, ainsi que la vie de celui qui est censé voir le monde surnaturel. Balaam est tellement en colère qu'il ne se rend pas compte qu'il engage une âpre conversation avec un animal. Si j'avais une épée, je te tuerais. Et il ne voit pas l'épée qui le menace lui-même. Et l'ânesse de Balaam est finalement meilleure voyante des réalités spirituelles que son maître, car elle voyait très bien l'ange de l'Éternel. L'ironie de ce texte nous fait sentir combien les soi-disant pouvoirs de ce voyant sont ridicules devant la puissance de l'Éternel qui est en contrôle de toute la situation. On a vu que Balaam est prêt à renoncer à son entreprise, mais Dieu lui dit de continuer, lui donnant simplement l'ordre de ne rien dire d'autre que ce qui lui sera donné de dire. Dieu va en quelque sorte le conduire jusqu'au bout de sa folie, folie d'un voyage entrepris à la légère. Et donc on va lire la suite de l'histoire. Voilà, donc Balaam, on arrive au verset 38. Non, pardon, au verset 36. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre à Ir Moab, situé à la limite de son territoire, sur la frontière formée par l'Arnon. Il lui demanda : n'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir ? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi ? As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec honneur ? Balaam répondit à Balak : tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même ? Non, je ne pourrais prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak et ils se rendirent à Kiryat Hutzot. Balak offrit des bœufs et des moutons en sacrifice et il envoya des parts à Balaam et aux chefs qui étaient venus avec lui. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, hein, une idole, d'où on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Alors Balaam dit à Balak : construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et ensemble ils offrirent 1 taureau et 1 bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak : reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. Et il s'en alla sur une crête. Et Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit : j'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert 1 taureau et 1 bélier sur chacun d'eux. Et puis donc la parole de l'Éternel va lui être révélée. Donc vous voyez que Balak emmène Balaam sur un des hauts lieux de Baal, son idole, hein, donc un lieu de culte païen d'où on avait vu sur les dernières lignes du camp israélite. Et on voit cette mise en place de tout un rituel païen avec de nombreux sacrifices dans l'espoir d'obtenir une communication de l'Éternel. On voit à quel point la théologie de Balaam était en fait impure. Et d'ailleurs, un peu plus loin, lors du 3e oracle qu'il va prononcer, il est dit que Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, parce qu'en fait il va le bénir, il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'augures. Les augures étaient une pratique typiquement païenne. Donc vous voyez que Balaam connaissait, semble-t-il, l'Éternel, mais en fait, il avait des pratiques tout à fait païennes. Alors, voilà le premier oracle à partir du verset 6 du chapitre 23. Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors, il déclama cet oracle. D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi, viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirai-je ? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerai-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer ? Voici, je le contemple du sommet des rochers et du haut des collines, je le regarde, je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais compté les foules de Jacob ? Qui sont aussi nombreuses que des grains de poussière ? Et qui a dénombré le quart du peuple Israël ? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ses justes, et que mon avenir soit identique au leur. Voilà la malédiction que Balaam était censé prononcer. Comment maudirais-je ? Dieu ne l'a pas maudit. Intéressant, cet aveu d'impuissance, lorsqu'on le compare aux élucubrations des auteurs des livres dont j'ai parlé en introduction. Qui a jamais compté les foules de Jacob qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière ? La puissance numérique des Israélites était un signe manifeste de la bénédiction divine. Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes et que mon avenir soit identique au leur. En somme, il n'y a pas de destin plus enviable que celui d'Israël, peuple considéré comme juste aux yeux de Dieu. Et pourtant, dans le même livre, deux chapitres avant, on a l'histoire de la désobéissance et du serpent d'airain. Ça peut paraître surprenant. Eh bien, l'Éternel déclare que ce sont des justes. Alors, on continue notre lecture au verset 11. Balak est bien sûr pas content. Il dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revient vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel ?» demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. » C'est un verset célèbre, celui-là. Hein, et il a été prononcé, vous voyez, par un voyant païen. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole ? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré ? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché en Jacob. Incroyable. Il n'a pas constaté de péché en Jacob. Alors qu'on sait bien que le peuple d'Israël a cessé de pécher contre l'Éternel. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici comme un lion, un peuple qui se lève. Il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Voilà donc ce deuxième oracle, précédé, une fois encore, d'une débauche de rituels païens, hein, sacrifices, etc., pour essayer de se rendre favorable à la divinité. On constate en passant un phénomène littéraire typique des récits bibliques, qui est la répétition quasiment mot pour mot dans la description de chacune des tentatives de malédiction. L'effet recherché par le narrateur est de faire sentir au lecteur la vanité de ces rituels païens. On peut être étonné de voir que dans la prophétie de Balaam, il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Il ne trouve pas de mal en Israël. C'est l'affirmation que Dieu considère son peuple comme juste. Cela ne peut être que l'anticipation de la justice que son fils bien-aimé procurera à son peuple, une justice éternelle pour le vrai Israël. On a vu aussi donc au verset 23 que le voyant déclare par la parole de l'Éternel que la divination est absente en Jacob et qu'on ne consulte pas d'augure en Israël. En réalité, on sait bien quand on lit l'histoire d'Israël que les Israélites sont tombés dans ce péché. Mais à la différence des peuples païens pour lesquels c'est normal, c'est une façon normale de fonctionner avec la divinité, c'est ici, pour Israël, clairement identifié comme un péché. Et pour l'Église aussi, bien sûr. Et l'oracle se termine donc sur la vision d'Israël comme un lion qui se lève, l'image de puissance. Le troisième oracle, à partir du chapitre 24, je termine verset 25 du chapitre 23. Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. » Mais Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnerait ?» Balak dit à Balaam, « Viens, je vais t'amener encore à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. » Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels, de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Encore ces répétitions de rituels païens, vous voyez, sans arrêt. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche d'augures. Il commence à comprendre que ça ne marche pas. Il se tourna vers le désert et regarda Israël, campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prononça son oracle. Donc voyons, on change encore d'endroit. Balaam commence à comprendre que l'entreprise est vouée à l'échec. Et cette fois, il ne va pas consulter les augures. Mais il y a toujours la mise en place quand même des sacrifices. Et on voit que l'Esprit de Dieu vint sur lui. Étonnant, hein ? Un homme tout à fait désobéissant et voué à la magie peut très bien être subjugué par l'Esprit de Dieu qui va le contraindre de délivrer un oracle conforme à la pensée divine. Pensons au cas de Saül, par exemple, qui pourchassait injustement David et qui a été lui aussi subjugué par l'Esprit de l'Éternel, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament. Alors, lisons ce troisième oracle. C'est là ce que déclare, donc c'est au verset 3 du chapitre 24. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor, celui, voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Quand on pense à ce qui s'est passé avec la mule, hein, l'homme au regard pénétrant, c'est assez drôle. Je pense que c'est l'humour du narrateur. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent quand il tombe prostré. Ça veut dire quand il tombe en extase. Hein ? À ce moment-là, il voit des choses surnaturelles. Et voilà ce qu'il dit, la malédiction qu'il est censé prononcer, « Que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob. Et tes demeures, ô Israël, comme des torrents elles se répandent, comme des jardins alignés près d'un fleuve, comme des aloès plantés par l'Éternel, ou bien comme des cèdres croissant au bord des eaux. De ce réservoir, l'eau déborde. La semence est plantée dans des champs irrigués. Son roi est grand, plus que le roi Agag, et son royaume gagnera en puissance quand Dieu le fit sortir d'Égypte. Avec une puissance semblable à la force du buffle, il dévora les peuples qui lui étaient hostiles. Il leur brisa les os et les cribla de flèches. Le voilà couché comme un lion au repos. Qui le fera lever ? Il est béni celui qui te bénit. Il est maudit celui qui te maudit. Voilà la parole de l'Éternel. Alors Balak se mit en colère contre Balaam, il frappa des mains et lui dit « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Voici la troisième fois que tu les combles de bénédictions. Puisqu'il en est ainsi, retourne chez toi. Je voulais te combler d'honneur, mais voici que l'Éternel te frustre de ses honneurs. » Autrement dit, tu n'auras pas un sou. Balaam lui répondit, n'ai-je pas expressément dit au messager que tu m'as envoyé, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit en bien ou en mal. Je ne pourrais dire que ce que l'Éternel dira. Maintenant, je m'en retourne chez les miens, mais auparavant, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera au tien dans les temps à venir. Et là, Balak va avoir droit à un quatrième oracle gratuit. C'est là ce que déclare Balaam, le fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent quand il tombe prostré. Toujours le même langage. Hein. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. un astre monte de Jacob. Un sceptre royal, surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth. Édom sera conquis, Séir son ennemi tombera en sa possession. Le peuple d'Israël accomplit des exploits. Celui qui surgira de Jacob règnera et il fera périr des villes, les derniers survivants, etc. Suis encore d'autres prophéties sur les peuplades d'alentour. Donc un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il prédit la venue d'un roi qui sera définitivement vainqueur de tous ses ennemis. Et dans la foulée, Balaam prononce encore des prophéties sur les peuples environnants qui seront vaincus par la suite et soumis à Israël. Mais si Balaam n'a pas pu maudire Israël, la suite de l'histoire nous montre qu'il réussira néanmoins à le faire tomber par la séduction sexuelle et l'idolâtrie. Jean l'évangéliste y fait allusion dans sa lettre à l'église de Pergame en Apocalypse 2, verset 14. On peut regarder ce passage. Donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, au verset 14, il s'agit de la lettre écrite par Jésus-Christ par l'intermédiaire de Jean aux chrétiens de l'église de Pergame. Et voici ce que dit cette lettre. Donc c'est Jésus qui parle. « J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi chez toi des gens qui ont des doctrines tordues, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, vous voyez, et quand on lit Nombre 25, on voit qu'effectivement, les Israélites sont tombés dans le péché à l'instigation de Balaam en s'alliant avec des jeunes filles de la région et en participant à des cultes idolâtres. Alors en pratique, avons-nous à craindre une malédiction, quelle qu'elle soit, et de qui que ce soit, nous, peuple de Dieu? Certainement pas, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on ne manipule pas Dieu, comme cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël nous le montre clairement. Et cette histoire montre que ce ne sont pas d'éventuelles malédictions qui nous font tomber dans le péché, mais ce sont nos convoitises, tout simplement. Pour en revenir à la théologie qui était développée dans les livres dont j'ai parlé au début, je pense qu'elle est totalement erronée et tend à mettre le chrétien sous un joug de crainte parfaitement injustifié. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est écrit l'apôtre Paul. Les trucs qui sont donnés dans ces livres pour briser de prétendues malédictions qui pèseraient sur nos vies ne sont que des manipulations à caractère magique du divin. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Nous l'avons lu. La divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Elle n'a donc aucune place dans l'Église non plus. Ces livres, en fait, ne présentent qu'une version christianisée de la manipulation du divin, alors que nous ne sommes pas appelés à manipuler, mais à obéir avec foi et à nous garder du péché. Et si nous avons besoin d'un texte nous montrant qu'on ne manipule pas Dieu, l'histoire de Balaam est là pour nous en convaincre.